Chers auditeurs, nous allons aborder l'histoire du diocèse de Bayonne au XIIIe siècle. Et nous allons voir tout d'abord l'histoire des évêques de ce siècle-là. Bernard de Lacarre, l'évêque de Bayonne, meurt en 1206. Beaucoup d'obscurité enveloppe l'histoire de sa succession. Il est vrai que l'époque est assez agitée sur le plan politique. Le dernier vicomte du Labour, Guillaume Raymond de Sceaux, disparaît en 1193. Et c'est probablement à cette date que le Labour est annexé au duché d'Aquitaine et que les vicomtes de Labour sont remplacés par des baillis nommés par le roi d'Angleterre qui est duc d'Aquitaine. Mais au début de ce XIIIe siècle, une sorte de bras de fer est engagé entre le roi de France, Philippe Auguste, et le roi d'Angleterre, Jean sans terre, que les pairs de France ont privé de ses possessions dans ce royaume. On comprend que les chanoines de Bayonne aient fait preuve de prudence avant de nommer un successeur à Bernard de Lacarre. En tout cas, le siège va demeurer vacant durant 4 années. Et ce n'est qu'en 1210 que fut élu Arcius de Navailles. Ensuite, on sait par une correspondance avec l'évêque de Dax qu'après lui, ce fut Raymond IV de Luc qui occupa le siège de Bayonne. On en reparlera à propos de la construction de la cathédrale. Il semble que ces deux évêques étaient originaires de Bayonne, ou en tout cas de la région. De même, Bertrand de Sceaux, fils du dernier vicomte, que certains historiens disent avoir occupé le siège de Bayonne en 1230, était originaire de Hasparin. Mais rien n'est moins sûr, en tout cas, il n'existe aucun acte signé de lui. Vers 1230, les chanoines choisissent comme évêque Raymond d'Onzac. Une propriété de ce nom existait sur la route de Biarritz. Il sera évêque de Bayonne durant près de 30 ans. Son activité, grande sur le plan matériel et sur le plan spirituel, le chanoine Veillet, l'historien de notre diocèse à la fin du XIIIe siècle, nous dit, et conclut ainsi la notice qu'il lui consacre, de tout ce que nous venons de dire de cet évêque, des acquisitions qu'il fit et des dons qu'il reçut, il paraît qu'il avait beaucoup de piété et qu'il employa la longue durée de son épiscopat à avancer l'édifice de son église, à en augmenter les revenus, à pratiquer et à inspirer les vertus les plus solides et à réprimer avec zèle les vices qui causaient du scandale sans avoir de cruelle condescendance pour les personnes de qualité qui les causaient. C'est donc ce que nous dit le chanoine Veillet. Et à ce sujet, vers 1256, il eut un différend sérieux avec Guillaume d'Armandalitz, neveu du chapelain de l'église paroissiale. L'évêque en vint à excommunier son diocésain, qui se repentit, et fut réconcilié sur son lit de mort. Le fils suivit les traces du père, fut excommunié à son tour, mais avec lui aussi, tout finit par s'arranger. À Raymond d'Onzac succède en 1259 Sens de Haïts, ou on le nomme parfois Sens de Aix, et l'on peut penser qu'il était de la famille des seigneurs d'Aix au pays de Cise. Il était sacriste de la cathédrale quand les chanoines le choisirent comme évêque. En 1279, arrive sur le siège de Bayonne Dominique de Mans. Né à Saint-Sébastien, il était chanoine de Bayonne depuis 1255. Il mourut en 1303 et comme on le voit, plusieurs évêques de ce XIIIe siècle ont eu un épiscopat assez long, et cela même si nous ne connaissons pratiquement rien de leur ministère, a favorisé certainement l'efficacité de leur action pastorale. Et puis, originaires pour la plupart du diocèse, il est probable qu'ils ont adapté aisément cette action pastorale aux besoins du peuple fidèle. Le chapitre que nous aborderons maintenant est celui de la vie consacrée, celui des ordres religieux. Le XIIIe siècle a vu surgir dans l'Église plusieurs instituts religieux importants, en particulier les dominicains et les franciscains. Les dominicains s'établirent à Bayonne probablement en 1221, c'est-à-dire l'année même de la mort de saint Dominique. Il est vrai que le fondateur de l'ordre des prêcheurs connaissait sans doute notre région. Tout donne à penser que ses voyages en Espagne et ses retours en France l'amenaient à emprunter la route du col de Roncevaux. C'est sans doute à l'un de ses passages à Saint-Jean-Pied-de-Port qu'il s'attacha l'un de ses premiers compagnons, Jean de Navarre, originaire de cette ville. On a beaucoup discuté sur l'emplacement du couvent des Dominicains à Bayonne. On est aujourd'hui d'accord pour dire qu'il se trouvait entre Nive et Adour, à la place dite bourgeoise, c'est-à-dire non loin de la place du réduit actuel. Le couvent des Dominicains fut détruit par un incendie en 1290, incendie qui fut marqué par ce qu'on a considéré comme un miracle, à la chapelle, qui fut également ravagée par le feu, les saintes espèces, le Saint-Sacrement, fut épargné par les flammes. Le couvent ainsi détruit par le feu ne fut reconstruit que 34 ans après. Les disciples de saint François, les cordeliers, comme on les appelait, étaient, pense-t-on, arrivés à Bayonne du vivant même de saint François, c'est-à-dire avant 1228 et donc vite après l'installation des Dominicains. Les cordeliers s'établirent eux aussi au Petit Bayonne, non loin de la Nive, à l'emplacement de la rue qui porte actuellement leur nom. Au milieu du XIIIe siècle, une maison de Carme s'établit au quartier Tarride, en dehors des remparts, à l'ouest de la ville, et vers la fin du XIIIe siècle arrivèrent les ermites de Saint-Augustin, qui eux s'installèrent au quartier Saint-Léon, tout près de l'hôpital Saint-Nicolas. Les deux établissements seront nommés souvent ensemble. On ne trouve à Bayonne au XIIIe siècle que deux communautés de femmes, celle des Cisterciennes, sur la rive droite de l'Adour et par conséquent au diocèse de Dax, et celle des Clarisses. On peut penser que la présence de ces dernières remonte aux années 1250 et que le couvent se trouvait au quartier Mousserolles, à l'emplacement du parking, à qui l'on a donné le nom d'ailleurs de Sainte-Claire. Nous poursuivrons la prochaine fois cette histoire des communautés religieuses de Bayonne et nous aborderons également l'histoire de la construction de la cathédrale.